Bienvenue sur la chaîne AAU. Fin de l'atelier Pétricor du premier séminaire de l'ANR Sensibilia, sensibiliser l'enquête de terrain. L'équipe retrouve l'artiste Anaïs Tondeur et l'anthropologue Germain Meulemans pour discuter de l'atelier et de leur mode d'enquête sur les sols urbains.
Donc en fait, c'est cette enquête Pétricor, on l'a menée, comme on le disait tout à l'heure, jusqu'à maintenant, avec des sols, à partir de sols en milieu urbain. Au début, en fait, ce protocole, on l'a inventé à deux, dans le cadre de cette résidence sur les sols. Donc ça a été développé en fait le long d'un transect qu'on a tiré à travers la ville de Paris. Et assez rapidement, en fait, ce protocole, on a eu envie de le partager et de le mettre en friction avec d'autres types de sols et le partager à un public. Donc on a travaillé avec 150 personnes sur à travers différentes villes, en fait, donc à Neuilly-sur-Marne, à Aberdeen, à Montreuil, où on a mené l'enquête pendant 6 mois. À Montreuil, en fait, par exemple, donc là, on a travaillé avec des scolaires, des jardiniers, des activistes, des personnes de la ville, du département plus environnement. On a travaillé et réfléchi avec eux à cette question de la pollution des sols et que faire de la pollution des sols dans des territoires de proches banlieues comme Montreuil, qui a été un des premiers territoires où on a commencé à épandre les boues et toutes ces matières qu'il fallait sortir des villes. Donc on trouve par exemple dans le haut de Montreuil, au niveau des murs à pêche où se trouvent actuellement des jardins partagés, des premières traces de pollution des sols qui datent du 19e siècle. Et donc à chaque fois, en fait, avec ces habitants, on partait prélever des sols et en même temps, c'est l'occasion de prélever et de révéler certaines histoires de ces sols. Et donc là, en fait, on a commencé une histoire de la pollution des sols dans la petite couronne, et spécifiquement à Montreuil, en arrivant jusqu'à la pollution des sols particulièrement contemporaine, avec une entreprise qui a fermé, qui générait une pollution des sols au chrome qui était utilisée pour le revêtement, en fait, de parties d'éléments d'aviation. Et à partir de ces sols collectés, donc un peu comme ce qu'on a pu faire ensemble ce matin, il y a un travail d'extraction de l'odeur. Par ce processus d'hydrodistillation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne par la vapeur les molécules odorantes. Donc on place le sol à l'intérieur d'un ballon qu'on remplit d'eau, on chauffe le tout et la vapeur va entraîner les molécules odorantes présentes dans le sol. Et ça donne lieu à des hydrolats de sol que l'on va humer et essayer de se plonger dans ce monde de relations par le biais de l'odeur qui a été collectée et qui en fait continue d'évoluer à l'intérieur de ces microsphères. Mais là en fait, nous ce qu'on aimerait bien tester avec vous, c'est un autre protocole où en fait, même, on serait intéressé de le mettre en discussion parce que, pour le moment, on a finalement une certaine... on est face à une certaine ambiguïté face à ce principe de l'hydrodistillation où, finalement, pour extraire ces molécules odorantes, on tue une partie du vivant en les bouillantant. Alors que si on se rapproche du processus de Chevreul, qui était dans la mise en macération, c'est peut-être comment trouver un processus qui permet d'activer une forme de transformation qui va générer une forme olfactive. Donc l'idée ensemble, c'est de mettre en macération 4 de ces sols, puis de commencer à essayer de percevoir ce paysage olfactif contenu dans le sol, et après de poursuivre cette réflexion-là lors de votre prochain séminaire avec Claire Petit-Mangin, alors que les sols auront eu le temps de poursuivre leur processus de macération et de révéler, a priori, un champ olfactif beaucoup plus prononcé.
Et donc, c'est peut-être l'occasion de dire deux mots sur... Parce que Donc Claire et Marc nous avaient envoyé quelques éléments de réflexion possibles pour cette intervention. Il y avait quand même cette question de la fiction, de son rôle, des inspirations qu'elle peut avoir, de comment elle peut déplacer en fait une enquête qui ne viendrait pas simplement documenter, mais mettre en récit quelque chose, pas uniquement qui puisse aussi relever donc de la fiction. Donc c'est pour ça qu'au début on a parlé de ces autres recherche, création qu'on a menée ensemble avec Anaïs. Donc on vous disait que dans un cas, l'élément fictif, c'était de mettre d'aller prendre un récit d'un territoire qui datait des années 30 et de le calquer quelque part sur le territoire contemporain, voir en quoi ça déplaçait quelque chose. Dans le deuxième cas, on a donc celui des sous-sols fluides de Paris. On avait eu accès, de par notre enquête auprès de géotechniciens, donc d'ingénieurs du sol qui stabilisent les sols, à ce monde du sol beaucoup plus fluide qu'on peut l'imaginer quand on n'a pas à se poser ces questions de la stabilité parce qu'on est usager de la ville et non pas on n'entretient pas ces sols pour pas qu'ils s'effondrent. Tant que ces gens-là font bien leur boulot, on n'a pas à se poser ces questions-là en tout cas. Donc ça ouvrait à ce monde d'un sol fluide et l'élément fictif, ce personnage, ce sourcier qui tombait dans un fontis et qui se promenait dans le sol, était quelque part le médiateur pour emmener plutôt un spectateur, un visiteur de l'installation dans ce monde du sol fluide et le donner à voir. Et ici, c'est encore autre chose. On a donc inventé ce personnage, ce scientifique, enfin ce savant qui cherche, qui en fait, par une forme d'archéologie expérimentale, si on, vous savez, l'archéologie expérimentale, c'est de se dire, tiens, on ne sait pas comment on construisait un canoë en 2000 avant Jésus-Christ, ben, on va essayer d'en fabriquer un, et par là, ou un biface, et de fabriquer, les archéologues fabriquent eux-mêmes un biface pour essayer d'imaginer ce qu'ont pu être les gestes de personnes qui n'ont pas laissé de traces écrites de comment ils faisaient ça. Ben là, c'est un peu ça aussi, à partir donc de ce protocole de Chevreul, de se mettre en mouvement à la recherche donc déjà de ces sols urbains et de l'odeur possible qu'ils peuvent laisser, des processus qui leur donnent, qui font qu'ils sont présents à cet endroit-là et qu'ils se transforment, etc. Et donc on a mis en acte, par une forme de performance, cette enquête. On est allé se dire, bon ben, on s'est déguisé. En l'occurrence, je me suis déguisé en ce personnage, et je suis allé faire cette enquête. Anaïs m'a filmé, on a produit. En fait, on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, c'était. Enfin, à l'époque, c'était juste à cette échelle-là, et puis on a entraîné différents publics là-dedans, ce qui a donné beaucoup de corps et qui a permis de diversifier un petit peu les questions qui se posaient dans cette installation. Donc là, la fiction, c'est comment se mettre en mouvement, en fait, autour d'une question, l'aborder. À partir d'un point de départ différent, ici en faisant varier la forme de sensibilité, les sens en fait vraiment qui sont d'habitude utilisés, enfin, qu'on va utiliser pour se poser la question du sol et de comment le décrire, et de comment décrire les liens entre le sol, la fabrique de la ville et l'habitation de ces espaces. Et voilà, se mettre en mouvement à partir de ça et produire une sorte de collection de sol, de classification de sol, qui est donc ce à quoi on aboutit dans l'installation.
Et une classification de sol par la olfaction, dont là actuellement, ce qu'on est en train d'essayer de déployer, c'est de créer une palette olfactive des sols de la région parisienne et au-delà.
Parce que c'était une question qui avait été aussi posée, c'était quid de l'objectivité, enfin, ou comment est-ce qu'on partage et qu'on transmet ça. Il y avait toute une question sur la discipline. Effectivement, la discipline, si on regarde historiquement comment les disciplines émergent, eh ben, c'est des chercheurs qui vont être habitués, entraînés à percevoir d'une certaine façon ce qu'est un sol, par exemple. Donc on voit des historiens des sciences qui travaillent sur l'époque moderne, 16e, 17e siècle, à l'époque où des disciplines commencent à émerger. Ben, on a des savants qui travaillent chacun dans leur coin, qui ont des savoir-faire très particuliers, qui leur permet de développer des connaissances par rapport à des objets naturels, etc., qui vont se poser la question de comment partager ça. Un exemple qui est très parlant, c'est celui du physicien Joule, qui a écrit sur le lien entre, le Joule, cette unité de mesure aujourd'hui, entre chaleur et mouvement, enfin, l'énergie cinétique, et Joule était capable d'avoir une expertise là-dessus, parce qu'il venait d'une famille de brasseurs. À l'époque, il n'y avait pas de thermomètre, pas très fiable en tout cas, il avait une expertise sensorielle, par ses mains, il pouvait savoir exactement voilà, détecter des variations de température très faibles, qui était un truc normal pour des brasseurs. Il fallait savoir faire ça si on voulait brasser de la bière. Donc lui, il pouvait faire ça. Il avait repéré ce lien physique sur le développement de la chaleur, mais comment faire pour le partager à d'autres savants, d'autres personnes qui s'intéressaient à ces mêmes questions, mais qui n'avaient pas cette expertise sensorielle. Ben, Joule s'est mis à travailler avec des verriers pour développer des thermomètres plus précis, pour pouvoir montrer de façon du coup visuelle et non pas haptique, sensorielle, cette différence de chaleur. Donc on voit bien comment tout ça, il y a un processus de standardisation de comment, par quel sens on va passer, vous connaissez cette histoire. Et donc là, c'était la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on sort justement de ça, comment est-ce qu'on rebat les cartes autrement, et est-ce qu'on peut arriver à partager quelque chose sans prétention à recréer une science ou recréer une discipline, mais simplement à arriver peut-être à un point où on a déplacé, où on a dénaturalisé quelque part la façon habituelle de faire. Comment est-ce que ça nous amène à un point où on peut apporter un regard un peu décentré sur cette appréciation habituellement visuelle du sol.
Et puis pour nous, il y avait aussi cette figure de l'outil de fiction qui devient un guide ou une sorte de vaisseau que l'on peut suivre pour aller à la rencontre d'un lieu qui ou nous échappe ou n'est pas accessible ou et d'une certaine manière inatteignable, et comment le véhicule de fiction nous permet une sorte de projection, une façon de se rapprocher de ces milieux-là. Et là, on a en référence une belle analyse de Michel Serre sur les vaisseaux de fiction de Jules Verne, où justement, en fait, le Nautilus va servir pour nous entraîner par l'imaginaire dans des lieux qui sont, là pour le coup, juste physiquement inatteignables. Et je peux vous lire un court extrait de Serre, justement, qui décrit ce processus. Il dit « Quand les hublots et les lunettes, et même les meilleurs télescopes et microscopes ne suffisent plus, les curieux envoient des envoyés. Voici ce que je ne peux pas voir et reviens vite m'en parler. L'auteur les envoie pour voir ce qu'il ne pourrait jamais examiner de près lui-même. Il se sépare en deux personnes pour que l'autre, en tant que lieutenant, écrive en tant qu'auteur à sa place. »
J'aurais une question aussi.
Ouais. Ça va être.
Je me demandais s'il y avait une influence de la pensée médicale au moment où la pédologie cherche un peu ses moyens et ses nomenclatures, puisqu'il y a toute la clinique qui, elle aussi, a beaucoup fait varier les modes d'observation sensibles, aussi pour organiser une transmission, donc d'organiser le savoir pour qu'il puisse être transmissible. Et voilà, est-ce que Chevreul, finalement, a regardé vers d'autres domaines de connaissances qui étaient en train de s'organiser ?
Les discussions dans lesquelles prennent place les travaux de Chevreul sur ce méphitisme des sols urbains, il se fait en lien avec des préoccupations d'ingénieurs et de médecins, tout à fait. Chevreul, il n'était pas vraiment disciplinaire, hein, il est défini comme chimiste, mais en fait, il part à l'image de pas mal de savants de son temps, enfin, il part un peu dans beaucoup de directions. Après, la pédologie en tant que science du sol, elle émerge pas vraiment en lien avec des préoccupations médicales ou sanitaires, mais plutôt juridiques. C'est-à-dire que des gens héritent de champs, de parcelles agricoles, et veulent savoir laquelle est la plus fertile, est-ce que je me fais pas arnaquer si j'hérite de ça et pas de ça. En Russie, au départ, de Koutchaïev, le fondateur, qui est souvent décrit, c'était un expert en fait. Et donc il fallait évaluer les sols, donc développer une science des sols, c'était ça l'étincelle. Et les questions sanitaires, elles sont venues, à ma connaissance, mais par la petite porte à plusieurs moments. Il y a eu des questions sur la bonne nourriture, qui vont être plutôt reprises du côté agriculture biologique, dans l'après-guerre, mais qui étaient présentes en fait dans la pédologie vraiment institutionnelle avant la guerre. Les travaux de Céline Pessy, un petit peu là-dessus. Et puis après, par la question des contaminations, à partir de la désindustrialisation des années 70, où là, il va y avoir de nouveau des équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur les sols et les aspects sanitaires, etc. Mais donc voilà, il y a des rencontres, mais c'est sur des moments différents, avec des médecins différents. Après, c'est vrai que, je ne sais pas si tu faisais référence aux travaux de Byron Good.
Je
C'est un ethnologue qui a fait de l'ethnologie de la fac de médecine d'Harvard, enfin d'une fac de médecine, où il montre comment les aspirants médecins, enfin les étudiants en médecine, apprennent les bons gestes et la bonne manière de regarder un corps, et comment tout leur cursus part des dissections sur des vrais humains morts, leur apprend à voir pas une personne, mais un ensemble d'organes, quelque chose d'organisé sur lequel ils peuvent intervenir, etc. Ils montrent comment ce regard qu'ils apprennent est tellement puissant qu'après, dans leur vie quotidienne, ça les perturbe un petit peu. Ils voient des tas d'organes autour d'eux et des choses comme ça. Enfin, bon, bref, ça c'est anecdotique, mais en tout cas, il a beaucoup travaillé sur comment une discipline s'incorpore, quoi. Il y a un regard très spécifique s'incorpore, au point où on ne voit plus pourquoi c'est un regard spécifique, ça paraît juste le regard. Et on peut, alors lui, il a bossé sur la médecine, sur les corps, c'est très visible là, mais on peut le transposer à peu près toutes les sciences, en fait, et notamment la science des sols.
On peut penser aussi au travail des pédologues de l'IRD qui, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, sont partis dans les colonies, faire des analyses de sol pour déterminer quel sol était plus propice à quel type de culture et comment ces cartographies des sols servent maintenant pour comprendre le déploiement d'intrants ou de polluants dans les sols et comment accompagner des populations touchées par du chlordécone ou ce type de polluants dans leur propre corps.
Pour continuer ces réflexions sur la discipline, vous avez tous les deux parlé tout au début de l'intérêt de cette collaboration pour vos propres pratiques. Germain, tu as parlé de cette collaboration comme une entrée, une manière de fabriquer les sols, de vraiment mettre la main à la pâte. Et Anaïs, tu as parlé que dès le début de au collège et de ta pratique, tu as toujours été à la recherche de ces collaborations, de ces formes de dépaysement qui se... je me demandais si vous pouvez tous les deux refléter un tout petit peu sur ce que ça a apporté vos pratiques à la fois d'anthropologiste et d'artiste.
Moi, je peux dire que c'est une façon de... tous ces projets, toutes ces enquêtes, c'est finalement essayer de trouver... des protocoles d'attention, c'est former ces sortes de laboratoires des attentions, des sensibilités. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est vécu déjà dans mon propre corps, mon propre corps sensible dans un milieu. Et l'idée, c'est comment déguiser, en fait, cette capacité d'attention et de sensibilité. Et il me semble important de pouvoir partager et construire ce laboratoire, cette forme d'exploration par un regard et une compréhension multiple. Et donc, c'est vraiment à aller chercher dans cette multiplicité des compréhensions et des perceptions du milieu pour proposer l'outil le plus fin pour se rapprocher de cette profondeur de milieu parmi lequel on évolue.
Et aussi d'ouvrir une problématique très précise, à l'inverse aussi de trouver le véhicule, quoi.
Oui.
Qui ouvre et...
Ouais, mais donc justement, j'ai l'impression d'avoir souvent... je suis souvent en résidence dans des laboratoires où, pour moi, la notion de temps et d'immersion est cruciale. Vraiment, prendre le temps de m'imbiber d'une autre façon de comprendre un phénomène naturel ou de comprendre un phénomène. Et à partir de cette rencontre, avec cette multiplicité de compréhension, aller justement essayer de synthétiser en un protocole qui va être dans ce renfermement, dans ce catalyser, en fait, une façon de réouvrir.
Moi, je dirais que la question, c'est venant de l'anthropologie, on nous apprend qu'on étudie le social ou le savoir, et qu'on va le faire par de l'observation participante, des entretiens, des notes de terrain, etc. On est aussi cadré dans une certaine discipline. La question qui s'était posée pour moi, c'était est-ce que je peux faire autre chose qu'une anthropologie ou une sociologie des savoirs sur le sol? Est-ce que je peux dire quelque chose sur le sol, vraiment, et pas juste sur les savoirs sur le sol? est-ce que je dois rester agnostique par rapport à ce qui est vraiment le sol ou pas? Et là, l'idée, alors, je continue à faire une anthropologie classique des savoirs par ailleurs, mais là, dans ces expériences-là, c'était justement d'imaginer qu'est-ce qu'un anthropologue peut dire sur le sol, et donc se réapproprier des protocoles, les mettre en acte, les transformer, jouer sur la fiction, se mettre en mouvement soi-même pour essayer d'explorer ça, parfois d'ailleurs en collaboration avec des écologues du sol aussi, qui ont bien voulu nous suivre dans ces expériences. Et donc, voilà, comment je peux essayer de construire un savoir sur le sol, et aussi qu'il soit quelque chose sur le social, qui permet aussi de parler de la ville, qui permet aussi de parler des attachements au sol, qui permet de, voilà, parce que la science du sol elle-même se pose un peu cette même question. Donc traditionnellement, ils ne prennent pas vraiment en compte l'humain, ou marginalement sur certaines choses. Depuis les années 2000, il y a des catégories de sol, dont on a parlé tout à l'heure, pour décrire des sols urbains fortement anthropisés. Donc ils disent, bon, on commence à intégrer l'humain comme sixième facteur de la pédogenèse, ils disent, parce que les autres, c'est le climat, la topographie, la géologie, des trucs qui relèvent des sciences naturelles au sens plus traditionnel du terme. Et donc, c'est aussi de chercher un point de rencontre avec ça, qui n'est pas forcément dans les termes proposés par la FAO de décrire des technosols, etc., mais plutôt par des protocoles comme cela. Donc, c'est une expérimentation là-dessus, et qui n'a pas prétention à plus que ça.
Finalement, en soi, ce travail de mise en mots autour de l'expérience olfactive, ce n'est pas obligatoirement un terrain dans lequel on avait une expérience. Donc, ça a été en tâtonnement, en fait, avec nos outils. Qui était justement, ou nos perceptions qui étaient justement à aiguiser. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant de l'ouvrir à des participants, à d'autres sensibilités, où là, très souvent, en fait, il y avait un travail du et si, vraiment où on s'accrochait à quelques odeurs perçues, et après d'aller creuser, en fait, chacune de ces odeurs pour aller tenter de percevoir le champ sur lequel elle ouvrait. Donc l'idée n'était pas tant d'essayer de décrire de manière objective l'odeur perçue, mais plus d'utiliser cette odeur pour aller interroger les mondes vers lesquels elle nous conduisait. Donc voilà, ça devient un autre support de prospection. Et après, les mots choisis sont là un peu quasiment en forme de synthèse pour tenter de réouvrir sur ce que ces mots étaient en train de décrire. Donc voilà, on n'est pas dans la description fine d'une typologie d'odeur, c'est plus un outil pour continuer d'aller explorer un monde de relations.
Oui, et c'est vrai que c'est un malentendu qu'il y a parfois eu entre nous et certains publics avec lesquels on a travaillé, qui disaient « Alors, quand est-ce qu'on sent ?» qui disaient que le moment où on allait vraiment faire quelque chose, apprendre quelque chose, c'est le moment où on allait finalement humer, comme si tout ce qui était avant n'était qu'une sorte de préparation un peu dont on pourrait se passer, quoi, une sorte de backstage pas très intéressant, alors que pour nous, pas du tout. C'est justement dans le fait de déjà se poser la question d'où il y a du sol en ville, d'où il y a du processus pédogénétique dans des endroits où on ne les attend pas, de ramener ça ici, et puis dans les cas où on a distillé, ça c'était un truc aussi intéressant, quoi. Il y a un processus assez méditatif quand même, dont vous allez entendre parler cet après-midi, je crois. Et finalement, on hume effectivement, et on décrit, et on crée ces cartes, mais c'est juste, finalement, c'est un élément dans tout un protocole dont il n'y a pas. Voilà, on essaie de ne pas rejouer ce truc un peu qu'on trouve dans beaucoup de protocoles scientifiques. On parlait tout à l'heure de comment la fausse pédologie. Des pédologues, ils mettent leur corps en mouvement, ils creusent, ils apprennent plein de choses comme ça, mais ne transparaît à la fin qu'une analyse visuelle qui est juste peut-être une demi-heure dans un processus de 12 heures d'engagement avec un sol, quoi.
Oui, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une première question qui est, c'est d'arriver à comprendre, est-ce que la fiction, c'est une façon de rendre compte de quelque chose qu'on a compris, et donc maintenant comment on va le raconter, la fiction est une façon de... Ou est-ce que la fiction, c'est une façon de se préparer à passer à l'action, ouais. Ce qui n'est pas tout à fait le même rôle. Ouais. Et ça me rappelle un peu cette... c'est pas une distinction, mais cette chose dont parle Tim Gold dans ce « Learning from Inside », c'est est-ce qu'on va parler sur un sujet, de quelque chose, ou est-ce qu'on va apprendre de. Et ce n'est pas la même posture. Et donc, dans un cas, la fiction où le récit est ce qui va me permettre de mettre en situation pour apprendre de la situation... Ou est-ce que, une fois que j'ai compris, j'en parle?
Bon, en fait, on a vraiment aussi expérimenté avec ces différentes formes de fiction, et c'est pour ça que au tout début, on vous a parlé d'un autre protocole d'enquête autour de cette stabilité des sols, Paris Flotille, donc développé avec les géotechniciens, où là, en fait, il y a vraiment eu un travail d'enquête, de rencontre de personnes qui tentent de stabiliser les sols, de nos propres corps au sein, dans les profondeurs et dans ce monde de fluide. Et finalement, tout ce qui a été vécu et perçu dans l'enquête a nourri la forme d'une fiction. Et donc là, on a inventé un personnage et finalement, on crée une fiction qui partage une expérience et un déplacement de perception des sols.
Qui permet de parler d'eux dans ce cas-là.
Exactement. Ouais. Alors qu'avec Petricor, on était intéressé par un autre processus où justement, c'est vraiment la fiction qui est partie inhérente du processus d'enquête. Et ce personnage de fiction, ce phénomène olfactif qui met en relation des mondes, devenait vraiment notre guide pour aller à la rencontre de ces milieux du sol, et donc vraiment plus que, comme un outil de prospection.
Oui, j'avais une question aussi sur les terrains que vous choisissez, en fait, parce que je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais pourquoi vous allez sur tel ou tel sol et pas tel autre ? Enfin, qu'est-ce qui vous amène à un moment à dire bah, c'est là qu'on va enquêter ? Enfin, qu'est-ce qui fait à un moment l'énigme de l'enquête ? Et s'il y en a une ou pas, d'ailleurs. Et vous parlez beaucoup des collectifs avec lesquels vous êtes, mais j'ai envie de savoir qui sont ces collectifs. Est-ce que c'est des gens que vous allez croiser puis qui vont finalement se mettre avec vous en mouvement ? J'ai eu l'impression qu'à un moment, peut-être c'était ça. Ils vous demandent ce que vous faites puis ils vous suivent. Ou est-ce qu'au contraire, c'est vous lancez un appel, je ne sais pas, enfin quelque chose qui fait que... Ben, on va venir, et qui vient en fait dans ces cas-là ? Est-ce que c'est des scientifiques ? J'ai cru comprendre qu'il y avait de la résidence en laboratoire, donc est-ce que c'est des gens d'autres laboratoires ? Quelle discipline ? Enfin voilà, je suis curieuse de ça.
Alors, en fait, souvent les... Bon, il y a eu finalement cette première enquête qui a commencé à Paris, et puis après juste du fait qu'on habite dans la région, l'enquête a été poursuivie dans les territoires qu'on arpente, vers lesquels on se projette, et ces territoires qu'on va rencontrer. Après, ça a été aussi développé de manière assez organique selon des invitations et des centres d'art qui nous ont invités en résidence pour déployer le protocole sur le sol de la ville avec les habitants. Et donc là, en fait, c'est une manière assez classique par le biais d'une programmation et des habitants qui sont invités à participer. Mais l'idée à chaque fois était d'aller chercher en fait une multiplicité d'acteurs et d'impliquer aussi, comme je pense à Montreuil, au service environnement et urbanisme de la ville, où on a proposé une sorte de séminaire avec des chercheurs d'AgroParisTech, des personnes de la ville. Et donc finalement, tout ce processus participe aussi à réfléchir à... Voilà, ce qu'est le sol sur ce territoire et comment vivre avec ce qui est contenu à l'intérieur de ce sol. Donc souvent les publics sont invités par le biais d'une programmation, et puis après de manière plus à improviser, d'autres personnes viennent rejoindre les groupes.
C'est une question un peu générique, comment vous percevez, ou comment vous êtes perçu par d'une part le milieu plutôt recherche scientifique ou le milieu artistique. Alors on entend vous êtes entre deux, transversaux à la fois et en même temps et tout le reste, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est une nouvelle discipline, cette espèce de forme de recherche création transdisciplinaire, donc c'est une chose en soi, ou est-ce que ça se... Voilà, un peu des questions autour de... Impossible, j'imagine, d'y répondre, mais ça m'intéressait de vous entendre parler de ça, de cette posture.
Encore une bonne question. Bon, on voit, évidemment, on n'est pas... Il y a beaucoup de gens effectivement, qui se mettent dans ce type de démarche aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir si ça fait champ, quelle légitimité ça peut avoir, notamment du point de vue institutionnel. À Aberdeen, il y a eu ce projet qui a réuni un certain nombre de personnes pendant un moment, qui a été financé par l'ERC, donc bon, il y a une forme de reconnaissance autour de ça. Mais je ne sais pas si ça a vraiment fait des jeunes derrière, si ça a persisté. Pas dans ce contexte-là, forcément.
C'est dur parce que c'est aussi une question de format, de comment des savoirs circulent et comment ils se consolident dans des communautés d'échange. En fait, et je crois que c'est de manière une des problématiques de ce champ de recherche-création, c'est que c'est surtout pensé en termes d'enquête et de méthodologie, et peut-être moins pensé en termes de format d'exposition, mais aussi, dans le sens très large, des économies d'échange, en fait, dans lesquelles ils participent. Et c'est tout un... c'est une immense question à ouvrir.
Mon expérience personnelle dans le champ de l'anthropologie en France, c'est que je peux le défendre parce que j'ai une pratique anthropologique plus classique à côté, et que donc c'est comme quelque chose d'un peu expérimental. Je ne sais pas très bien ce que ça donnerait si je faisais que ça. Mais je dis vraiment, je ne sais pas, hein, peut-être que... Et ça mériterait une enquête, en fait.
Après, moi, j'ai l'impression que dans le champ de l'art contemporain, il y a de plus en plus une place ouverte à cette hybridité des pratiques et de plus en plus de structures qui se trouvent à l'interface entre des espaces de démonstration publique et des champs de recherche. Il y a de plus en plus de structures qui soutiennent et fertilisent ces pratiques. À Grenoble, vous êtes bien accompagné. Oui.
Ce que je sur cette question là de la part de l'artiste ou de la forme du travail, ce que je trouve très intéressant dans vos propositions, mais qui rejoignent aussi les propositions d'autres personnes, c'est que ça échappe, je trouve, à une critique contemporaine qu'on pourrait faire aujourd'hui assez facilement, l'enquête comme forme d'exposition, ou l'exposition de l'enquête comme finalité à l'enquête, et qui est aujourd'hui un travers très très fort, en fait, et qui prend le dessus à la fois sur les productions artistiques et sur les productions scientifiques. C'est-à-dire que là, ce que vous nous proposez dans vos différents travaux, d'abord c'est une démarche réellement collaborative entre scientifiques et artistes, mais c'est un peu ce que tu disais, Germain, c'est-à-dire qu'il y a une dimension non cachée de toutes les étapes du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné une mystification sur comment on arrive à ça, comment on passe à ça, etc. Mieux, vous embarquez les gens, vous créez un dispositif de vision, en fait, du travail en train de se faire, en espérant qu'il y ait des répercussions de chaque côté, et peut-être aussi du côté des gens qui découvrent ça, qui eux-mêmes peuvent incorporer peut-être des éléments de ce que vous mettez en œuvre dans leurs propres travaux. Et donc c'est, je dirais, prendre au sérieux le processus, non pas comme pour produire une finalité, mais pour accepter que tout le long du processus, il y ait de la documentation, des interactions, des rétroactions, etc. Et en cela, je trouve que c'est un positionnement qui peut relever de certaines formes de pratiques de recherche artistique, et qui est de fait de la pratique scientifique, mais souvent qui est caché, qui est masqué, qui n'est pas montré, etc. Et c'est vrai que le piège, moi, que je vois, et dans lequel on peut tomber tous, moi, dans lequel je suis tombé aussi, tout ça, c'est que la finalité de la monstration prime sur l'ensemble, en fait. Et on voit bien cette chose-là.
Oui, c'est pour ça qu'on apprécie particulièrement ce processus, là, si on rebondit sur Petricor, ce temps en fait de la distillation ou de la mise en macération, où là finalement par...
C'est la métaphore de votre travail et de vous-même.
Mais ouais, de développer en fait cette ascension à cette forme processuelle, et donc voilà, d'impliquer du temps, de la contemplation, la mise à nu aussi, la mise un peu en danger, et de se rendre accueillant au processus en cours.
Et dans un des derniers livres de Tim Ingold, c'est moi qui cite Ingold, alors vous en êtes des doctorants, mais un docteur, mais c'est vrai que dans Faire, Anthropologie, Architecture, etc., il le dit très très bien sur le fait de se mettre avec la matière, au cœur de la matière, en fait, et pas au-dessus, quoi, pas l'observatoire.
Oui, je crois que ça rejoint un autre champ de questionnement, qui est celui de la notion de savoir situé, proposée par les STS, et notamment les STS féministes. Justement, que peuvent faire les sciences humaines dans un dialogue ou une critique des approches de sciences dures, c'est justement de se resituer les savoirs, pas comme quelque chose qui serait abstrait du monde et extérieur à eux, mais inclus dans une forme de rencontre avec la matière, médiée par toute une série d'institutions, de dispositifs, etc. Et ça repolitise aussi la question des savoirs, ça permet de déplacer un peu les questions aussi auxquelles ces savoirs peuvent amener, etc. Et donc dans l'idée de ne pas disjoindre le savoir produit du dispositif, justement, qui permet d'aboutir à cette question-là, de montrer l'ensemble comme une performance. Je pense que ça fait, pour moi, ça fait un peu écho aussi à ça. Et ça rejoint, alors c'est marrant, parce que Ingold, c'est pas un lecteur des STS, il rejette ça, en fait, assez un peu trop vite, à mon avis. Et pourtant, il y a des ponts quand même, je pense.
Après, je termine là-dessus, sur le dialogue sur la fiction qui a été amorcé, je pense à... Donc je sais bien vers quel récit fictionnel, enfin vers, je dirais, l'ouverture fictionnelle que vous mettez derrière, mais je pense aux travaux de Guy Coste et Joseph Alterac, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est des fans de littérature, il y en a qui viennent de mourir, et ils ont fait deux livres, un qui s'appelle « Les terres creuses », et c'est une anthologie de l'imaginaire de ce qui est sous terre. Donc il y a un recensement de plus de 1200 ouvrages qu'il résume sur comment la terre est support de fiction, en fait, pour simplifier. La terre, on parle de la terre noble. Et ils ont en fait une nouvelle, un nouveau ouvrage qui s'appelle Rétrofiction, qui est en deux volumes de 1500 pages chacun. Et là, ils recensent plus de 6000 ouvrages, francophones uniquement, de rétrofiction. Et là-dedans, en fait, ils ont créé des immenses index croisés à partir de mots-clés, dont on peut prendre le mot sol, le mot terre, le mot etc., et aller relire 150 ans de fiction, de rétrofiction. Donc de fiction du futur, d'hier, enfin, de fiction d'hier, du futur. Ouais. Et je me suis... Enfin voilà, et en fait, je dis ça parce que je m'étais promis de le faire sur la question du sonore. Il y a le son comme mot-clé. Et je me suis dit, il faut absolument aller regarder 150 ans de rétrofiction sur le sonore. Je ne l'ai pas fait, j'ai le bouquin à la maison pourtant. Et je me dis, pour le sol, c'est pareil, quoi.
Ouais.
Là, il y a un truc, ils nous ont offert un outil dans ces deux volumes qui sont magiques.
Très probablement des choses intéressantes. Au 19e, beaucoup de gens discutaient du sol.
Et votre retour, enfin voilà, votre lecture de la science du 19e, comment elle rejaillit aujourd'hui, etc. Ils sont en plein dedans.
Ah ben merci.
Ouais. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que du coup, on échappe aussi aux logiques, à la nécessaire logique fictionnelle qui arrive aujourd'hui chez beaucoup d'auteurs, mais qui renie un petit peu. Ce monde de la fiction d'hier, qui n'est pas complètement, sauf quelques-uns, enfin comme le bouquin de la Poujade qui vient de sortir.
Ça peut être un bon moment de transition pour nous aussi revenir à nos sols et peut-être prendre un temps pour partager pourquoi ces sols-là, qu'est-ce que ces sols peuvent raconter, ce vers quoi ils peuvent mener, quelles sont les genèses derrière ces sols, et puis ensemble de choisir quatre sols qu'on va mettre en distillation que vous pourrez réexplorer lors du séminaire prochain avec Claire Petit-Mangin. Mais par contre, moi j'aurais une question peut-être aux spécialistes de l'olfaction sur les modes de macération.
Je suis pas spécialiste de macération,
mais parce que
quelle est la question?
En fait, on a là pour le moment deux possibilités pour mettre en macération les sols, tout simplement de l'eau comme chevreul ou de l'huile. Je ne sais pas ce qui pourrait.
Je pense que tu en penses, Nicolas.
Oui. Alors, je suis content d'entendre parler d'hydrodistillation parce que c'est une technique que je pratique pour les analyses chimiques. En fait, j'ai envie de vous dire, quand tu as évoqué que tu avais peur que finalement le processus s'arrête, mais j'ai l'impression que c'est justement ce qu'il faut faire. Si vous voulez avoir une photographie à l'instant T de l'odeur de la matière première, il faut distiller l'odeur, enfin extraire l'odeur. Il y a des procédés pour ça, j'avais prévu d'en parler demain justement. Mais il ne faut pas que la macération se poursuive, parce que dans l'expérience de Chevreul, finalement, on ne peut pas vraiment dire que quand il ouvre son bocal, il a l'odeur du sol tel qu'il l'avait quand il l'a récupéré, parce que la macération a continué dans un environnement différent. Et du coup, ça a évolué, c'est plus la même odeur. Donc si vous voulez capturer l'odeur et la figer, alors l'hydrodistillation, c'est pas ce qui est le plus adapté dans le sens où ça va chauffer à 100 degrés. C'est pas tellement que ça tue le vivant, parce que finalement, vous voulez plus que le vivant travaille. Vous voulez avoir l'odeur telle qu'elle est à l'instant T. Vous avez plus besoin que le vivant continue à faire évoluer cette odeur. Mais par contre, c'est plus la transformation chimique due à la chaleur dans l'eau bouillante qui peut altérer l'odeur. Mais ça, si vous voulez, c'est une problématique qu'on a typiquement quand on fait de la chimie, qu'on extrait des odeurs. On fait un test pour voir si la représentativité de ce que vous avez obtenu est bonne ou pas. Vous comparez par exemple l'odeur de votre hydrolat à l'odeur de la terre. C'est pareil ou pas?
Ça passe par le nez, ça?
Ah oui, c'est des tests sensoriels. On fait des tests pour essayer de voir la similitude, en fait. Et si vous voulez des procédés plus doux, tu parlais d'huile, il y a en fait des solvants, il y a tout un tas de techniques qui ont été développées, des solvants qui permettent d'extraire ce qui va être odorant et qui est plutôt organique en général, et qui serait peut-être moins, qui va moins malmener votre terre, parce que ça va moins la chauffer. Mais là encore, c'est à la fin le test de comparaison des odeurs qui vous dira si vous avez quelque chose de représentatif ou pas.
C'est intéressant parce que c'est toute cette question de est-ce qu'on fige effectivement, comme tu l'as dit, une photographie de l'odeur. Bon, c'est marrant comme image, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? C'est pas clair. Justement, en fait, je sais pas si tu étais là tout à l'heure quand on a parlé de pétrichor, de comment il émerge. C'est que c'est justement pas quelque chose qui ne tient qu'en une molécule, mais un ensemble de tout un processus en fait relationnel. C'est un entre-chose et pas une chose. Qui fait qu'à un moment on perçoit ça. Et donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans une bouteille, un flacon de parfum ou d'arôme, etc. Même si ça a été fait et proposé, enfin, il y a plein d'aromaticiens, de parfumeurs qui ont reproduit ça, etc. Mais là, l'idée, c'était comment est-ce qu'on garde justement l'idée que c'est un processus en transformation en lien avec le climat, les arbres, la vie, les bactéries, etc. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment l'arrêter? Et cette question nous avait été posée par Anat Singh, en fait, je me rappelle. Et c'est ça qui nous a fait nous demander si on avait gardé l'hydrodistillation.
Et qu'en effet, le sujet n'est pas obligatoirement temps de collecter un paysage olfactif à un instant T, mais plus de mettre en mouvement un paysage olfactif qui va pouvoir se révéler. Et si ça implique un temps plus long. En fait, peut-être que c'est ça qui nous intéresse plus.
Dans cette idée de la révélation, il y a quand même la question d'une certaine véracité de cette révélation, parce que si c'est, comme Chevreul, mettre à macérer quelque chose pendant 6 ans, au bout de 6 ans, l'odeur qui est présente là, elle n'est pas représentative de ce qu'il a prélevé, et elle raconte une autre histoire. Alors bien sûr qu'il est ancré dans le prélèvement qu'il a fait, mais elle raconte une autre histoire. Donc là, c'est un peu, je trouve, c'est un peu ce que Nicolas est en train de dire sur le fait que le fait de chercher à extraire quelque chose, pour moi ça me renvoie au fait que il y a un côté qui, pour moi, l'odeur s'échappe toujours. D'abord, si on la sent, c'est qu'elle est en train de s'échapper. Si on a très peu senti de choses tout à l'heure pendant qu'on marchait, c'est parce qu'il faisait trop froid et que donc les molécules, elles se promenaient pas beaucoup dans l'atmosphère, elles pouvaient pas atteindre notre nez, elles étaient immobilisées par le froid. Et là, on va déjà les avoir mis à température ambiante, fait qu'on peut à nouveau, qu'on peut aller sentir nos échantillons. Mais dans tous les cas, l'odeur, elle nous échappera toujours, puisque de toute façon, le fait de la sentir, c'est le fait qu'elle est en train de disparaître. Donc à un moment, il faut accepter que ni ça n'est une photographie très, très nette de ce qu'on a prélevé ou de ce qu'on a pu ressentir. Ni, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il faut un peu sortir de l'idée que à partir du moment où on va chercher à en extraire quelque chose, on le transforme. Donc que ce soit à chaud, à froid, avec des solvants, voilà. Ben, vous le savez aussi, par exemple,
la fleur qui est la plus représentative en parfumerie, c'est le jasmin. Et le jasmin, on ne peut pas le distiller à chaud, puisque la fraction odorante qui nous plaît le plus dans le jasmin, elle va être ébouillantée, on va dire comme ça. Et donc, on peut récupérer le jasmin. À l'époque, en mettant en contact un produit gras qui va récupérer ces molécules-là. Donc, ou alors, maintenant, avec des solvants dont parlait Nicolas, à froid, c'est des solvants pétrochimiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'huile de jasmin bio.
Voilà. D'accord.
Mais donc, je ne peux pas répondre avec... Enfin,
ouais,
voilà.
Après, j'ai une question hein, par rapport à cette transformation qui est volontaire, finalement. Vous voulez que ça évolue. Moi, si je regarde ça avec ma vision des choses, peut-être c'est un peu esthétique, hein, mais si on essaye de la faire bonifier, finalement, cette odeur, bah, y a plein d'exemples aussi. Y a l'exemple d'une matière première qui n'est pas trop connue, une matière première de la parfumerie qui s'appelle l'iraceum. C'est en fait des déjections d'un petit mammifère qui vit en Afrique, dans des grottes, qu'on laisse maturer longtemps, on les extrait, et on obtient quelque chose qui est plus représentatif de l'odeur de la déjection fraîche, on va dire, mais qui est devenu quelque chose de différent. On peut dire que c'est un peu comme de la merde fossilisée, hein, sans vouloir être choquant. Mais au niveau olfactif, c'est très très intéressant, c'est très esthétique, d'un point de vue parfumistique. Voyez. Et ça, à mon avis, c'est, si on est dans une démarche artistique, c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour montrer que bah, ça peut évoluer, la matière évolue, elle peut se bonifier pour les critères qu'on a, et ça peut devenir très intéressant.
Oui, mais ça, en fait, vos commentaires touchent du doigt un problème dans ce protocole, qui est que finalement, à partir du moment où on met en nitro-distillation, on ne s'intéresse plus énormément... Enfin, on va humer, on va décrire, et puis après, en fait, on met en bouteille, et on expose, et ça devient quelque chose de visuel. Les personnes qui ne nous ont pas accompagnés dans le protocole de collecte, n'ont pas accès en fait à l'odeur de ces sols. Ils sont dans quelques cas on a laissé humer, mais ça faisait pas grand chose.
À Aberdeen c'était ouvert.
Et après en fait ça passe par un autre biais, par des codes de couleur, par des mots qui sont dans l'évocation, mais on referme en fait.
Mais ça redevient visuel. Donc c'est intéressant l'esthétique du point de vue olfactif est pas présente dans l'installation elle-même. En tout cas elle est amenée par d'autres biais. Et ça, c'est une limite, et c'est peut-être une autre installation ou un autre protocole qui pourrait nous amener à développer ça.
Ouais, c'est pour ça qu'on était intéressés d'ouvrir et de tester ces idées-là avec vous.